Il nous reste 2 minutes avant 4 heures, mais nous avons fait le plein et malheureusement on me dit qu'il n'y a pas d'autre amphi libre pour une retransmission audio pour ceux qui sont dans une position un peu inconfortable. Ainsi, je suis heureux que nous soyons serrés. Et je suis heureux de vous présenter aussi Alexandre Gadi, que vous connaissez puisque vous êtes venu l'écouter, qui est un historien de l'art, un historien de l'architecture, et qui est aujourd'hui professeur à l'Université Paris 4 Sorbonne et au Centre André Chastel, où il a publié beaucoup sur l'architecture de Paris, beaucoup sur les différents quartiers, d'abord sur le Marais, sur la place des Vosges, mais aussi sur le 9e arrondissement, sur la place Saint-Georges, mais aussi sur ce quartier. Nous avions eu une conversation sur le quartier du Collège de France, de la montagne Sainte-Geneviève. Mais aussi sur la place des Victoires, mais aussi sur l'hôtel de la Marine. C'est donc un très très fin connaisseur de l'architecture de Paris. Il avait fait sa thèse sur Jacques Lemercier, architecte et ingénieur du roi, en 2001, et une habilitation sur l'architecture à l'époque moderne, sur ces hôtels parisiens sur lesquels il a beaucoup travaillé. Je voudrais aussi mentionner un autre pan de son activité, puisqu'il est président, je crois maintenant, président de la SPPEF, c'est-à-dire la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Et qu'à ce titre, on entend souvent parler de lui ces dernières années dans un certain nombre de querelles et de conquêtes, puisque souvent ces débats ont tourné plus ou moins bien, suivant le bord que l'on adopte, à propos de la Samaritaine, à propos de l'extension de Roland-Garros, à propos du musée Picasso, et que sais-je encore, ou à propos de l'hôtel de la Marine. Alexandre Gadi est donc un ardent défenseur du patrimoine et du paysage, mais ce n'est pas à ce titre que nous l'avons invité aujourd'hui à prendre la parole au Collège de France. C'est l'historien de l'art et l'historien de l'architecture que nous allons écouter à propos de Louis XIV et de l'architecture. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, cher Antoine, compagnon de cette introduction. Je dois tout de suite vous dire à quel point je suis heureux, mais aussi un peu ému, même si je n'ai eu qu'à traverser la rue, d'être aujourd'hui parmi vous pour parler dans cette enceinte sacrée du savoir français. Et combien votre présence nombreuse me rassure un peu, et nous allons nous tenir chaud autour de la figure de Louis XIV. En choisissant de parler aujourd'hui de lui, avec vous, au Collège de France, une institution pourtant fondée par François Ier et bâtie par Louis XVI, je n'ai pas voulu faire de mauvais esprit, ni céder non plus à l'actualité chargée en cette année où l'on commémore le tricentenaire de la mort du grand roi, sujet d'une exposition qui ouvrira prochainement à Versailles, et d'une autre consacrée à la gravure sous le règne de Louis XIV à la Bibliothèque nationale en provenance du Getty. À la vérité, la facilité pourrait sembler tout entière résider dans le choix même de ce sujet, un roi qui demeure dans l'imaginaire collectif, l'incarnation de la puissance et de la gloire, une figure matricielle inscrite au cœur de notre imaginaire du pouvoir. L'importance des images le représentant et dont il a savamment organisé lui-même la mise en scène dès le début de son règne, nous parle encore au point de susciter de nombreuses utilisations contemporaines, dont je n'ai choisi que deux, mais celles-ci disant plus sur nous que sur lui, je me tiendrai sagement au XVIIe siècle. Mon propos est néanmoins tourné vers un réexamen de l'image de ce prince à travers le prisme de l'architecture, l'art majeur pour les anciens. Non pas l'architecture sous Louis XIV, un sujet aussi vaste que malaisé à traiter en une petite heure, mais bien celle qu'en maître de l'ouvrage, conscient de sa gloire et jaloux de sa grandeur, il a investi comme image du pouvoir. Il ne s'agit pas non plus de refaire ici l'histoire des différents édifices royaux du grand siècle, mais de s'interroger sur l'implication de Louis XIV dans le processus de fabrication de l'architecture royale. Je ne chercherai même pas chez Louis XIV l'artiste, celui que certains historiens ont été jusqu'à qualifier d'architecte. Je reviens plutôt aux trois mots qui me servent de titre. Grandeur, revendiquée par les contemporains, le roi en premier lieu et ses turiféraires. Caprice, caprice consubstantiel à la comédie du pouvoir, donc à celle de l'architecture. Enfin, échec, un terme qui cette fois nous sépare du grand siècle et n'appartient pas au vocabulaire Louis XIVien. Ici, j'interviens comme historien, non pas pour juger de ce qui serait bon ou mauvais, mais pour regarder différemment en renversant le paradigme habituel du grand roi, du grand règne, du grand siècle et de la litanie des chefs-d'œuvre qui font la gloire de la France. L'histoire de l'art traditionnel, longtemps occupée de questions de style, n'a-t-elle pas fabriqué avec le classicisme Louis XIVien un chapitre trop politique pour être honnête? On aura compris que loin de vouloir démolir cet après-midi le peu d'identité heureuse et de gloire nationale qui nous reste, en ces temps de doute et de crise, je cherche à comprendre cette architecture, aussi familière qu'étrange, en s'échappant des mirages d'une lecture dorée, sinon sous influence. À rebours d'une historiographie glorieuse, je partirai donc plutôt du célèbre aphorisme de Jacques Bainville, « Tout a toujours très mal marché ». Et à travers les exemples du Palais du Louvre, de celui de Versailles, enfin du chantier de la place Vendôme, je tenterai de montrer que la volonté de grandeur de l'architecture royale qui devait s'illustrer n'a pas échappé au mécanisme du caprice, mais surtout qu'elle a pu aboutir à des échecs qu'il convient d'interroger sans tabou. Et je commencerai donc par examiner le chantier du Louvre. Le Louvre qui constitue, dans le règne, le chantier premier, lancé avant Versailles, et où la monarchie poursuit un grand dessein imaginé sous Henri IV. Ce projet, qui consiste dans la réunion du Louvre et des Tuileries, second palais édifié plus à l'ouest du premier, n'a connu qu'une réalisation partielle au gré des hoquets de l'histoire politique du demi-siècle qui précède le grand règne. Vous reconnaissez ici, bien sûr, le Louvre, et tout en haut de l'image, le château des Tuileries, alors complètement inachevé. La reprise de ce grand dessin constitue donc en premier lieu une manifestation de grandeur, ce qu'ont bien compris le cardinal Mazarin, son commis Colbert, bientôt à la manœuvre au plus près du roi, et Louis Le Vau, premier architecte de Louis XIV depuis 1654. Le projet de ce dernier, que je vous présente et qui peut être daté de la fin de l'année 1659, est bien connu. Remarquable document d'urbanisme, selon notre terminologie moderne, on mesure l'ampleur des vues et l'ingéniosité des aménagements envisagés par Le Vau sur un document qui est conservé aujourd'hui au musée du Louvre et qui donne l'échelle de l'intervention proposée par le premier architecte. Achèvement de la cour carrée qui constitue le noyau du Louvre, dégagement des abords qui sépare les deux édifices pour créer un complexe palatial monumental dont Henri IV avait déjà rêvé avant son petit-fils, création d'une place au devant de la façade d'entrée du Louvre, ici est l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, un programme qui suit assez fidèlement ce qu'avait déjà imaginé Henri IV, à la réserve d'une initiative nouvelle, la conquête de la rive gauche par le bassin de la Seine, avec la projection de ce pont de la paix qui a donné son nom au plan et qui fait bien sûr allusion à la paix des Pyrénées que Mazarin est en train de signer à ce moment-là pour asseoir le règne de son filleul, et un bâtiment ici très imposant, un peu difficile à analyser dans l'instant puisque on n'est plus tout à fait sûr, comme on l'était jadis, qu'il s'agit du brouillon du Collège des Quatre Nations, c'est-à-dire le palais de l'Institut actuel. En lançant un tel chantier, le jeune roi s'inscrivait dans une logique toute royale de continuité dynastique. Tout semblait réuni pour garantir le succès de cette opération. Des finances à nouveau disponibles, grâce à la fin de la guerre contre l'Espagne et au temps heureux qu'allait ouvrir la paix des Pyrénées, le mariage avec Marie-Thérèse, une remarquable équipe d'architectes et d'entrepreneurs que va bientôt diriger Colbert et à la tête de laquelle se trouve donc l'ingénieux Louis Levaux. Et pourtant, 12 ans plus tard, c'est un spectaculaire échec dont accouche cette campagne de travaux, commencée tambour battant. En février 1671, le roi quitte Paris pour toujours, le chantier du Louvre est abandonné pour un siècle et demi, et la colonnade, symbole du nouveau règne et construction de magnificence, selon l'heureuse formule de Louis Hautecoeur, n'est qu'une carcasse vide, à peine visible, à quelques mètres de sa façade dressée par les architectes du roi. Cet échec, je peux évidemment me rattacher à la Vulgate et l'expliquer par la concurrence du chantier versaillais, lancé en 1661, et où le roi engloutit avec enthousiasme de grosses sommes d'argent. Le caprice de Versailles fait-il donc échec à la grandeur du Louvre ? C'est l'antienne de Colbert qui pousse au plus loin la franchise ministérielle dans une lettre célèbre de 1667, quand il écrit au roi que Versailles regarde le plaisir de sa majesté, mais le Louvre sa grandeur, en mettant en parallèle les deux aspects de ce que j'essaye de montrer en utilisant ce mot de caprice. Cependant, le processus d'échec du chantier du Louvre est plus complexe. Il est en premier lieu contenu, et c'est pourquoi je pense que nous pouvons continuer de regarder cette image, dans le plan du bâtiment lui-même, projeté deux générations plus tôt, et il faut ici dédouaner bien sûr Louis XIV. La distance entre les deux palais est très grande, peut-être trop grande, et elle oblige à de nombreuses démolitions et reconstructions. On notera d'ailleurs qu'entre le projet d'Henri IV et celui-ci, Levaux a un tout petit peu retraité dans les ambitions qui nécessitaient des interventions financières tout à fait importantes. Surtout, et c'est le point sur lequel va se focaliser le débat, la cour carrée, dont le quadruplement a été initié par Louis XIII, est un espace trop large qui apparaît bordé par des bâtiments trop maigres, trop minces, dont les épaisseurs ne correspondent plus à la distribution alors à la mode et qui est en plein renouvellement depuis les années 1640. Cette cour carrée, non susceptible d'un quelconque dégagement, est donc un espace paradoxal. La dilatation du carré d'origine, qui correspond à la forteresse de Philippe Auguste, a ainsi produit un édifice qui, pour être régulier, n'est pas très commode ni confortable. Cette difficulté est rendue plus aiguë encore en raison du choix du traitement architectural, cette fois-ci, adopté d'enthousiasme deux générations plus tôt, reproduire le module que constituait l'aile de Pierre Lescot, construite au milieu du XVIe siècle pour Henri II, et investie d'un discours monarchique qui étalonne depuis l'architecture française. Or, cette façade, qui ne correspond qu'à cet élément-ci, un huitième du développement, cette façade, donc, a été dessinée pour une cour réduite qui n'est pas à l'échelle de la ville. Sa face extérieure, qui n'était pourvue d'aucun décor, ne saurait composer une entrée monumentale. Et la question du rapport du Louvre avec Paris se pose dès lors de manière extrêmement délicate dans le secteur qui va porter de plus en plus à la confusion que je vais décrire. Conscient du problème posé par cette façade, Levaux va y répondre en portant tous ses efforts sur l'Orient, en proposant d'abord, ce que vous ne voyez pas encore sur ce plan, qui est une de ses premières pensées, de doubler cette aile pour lui donner plus de profondeur et surtout de la doter d'une architecture qui rompe avec l'esthétique du palais. Colbert, qui n'aime guère l'architecte Levaux, l'écarte en 1664 pour mieux reprendre cette idée que la façade orientale constituera l'enjeu de ce chantier monumental. C'est alors qu'est lancée la célèbre consultation d'architectes romains qui aboutit en 1665 à la venue du cavalier Bernin à Paris, épisode bien étudié et je pense bien connu de vous. La deuxième raison de l'échec, que je ne développerai pas car il est lui aussi assez bien connu, est le dialogue de sourds entre Colbert et Bernin, qui se focalise sur le dessin de cette façade orientale, dont les élévations comme la distribution suscitent des débats très vifs, quelquefois à la limite de l'injure, mais les injures de Bernin étant en italien, elles sont amorties provisoirement dans la discussion ministérielle. Et plus généralement, cette querelle peut être lue, mais là-dessus, la littérature est importante, comme une suite d'incompréhensions entre deux cultures architecturales, entre deux milieux qui sont assez dissemblables, malgré les ambitions des uns de s'apparier aux autres. On comprend dès lors que le choix de faire de l'entrée orientale l'aile principale opère comme une inversion du système français au profit de la solution italienne qui place l'essentiel du dispositif monumental de l'architecture sur la ville, sur l'espace public. Et je vous montre ici un très beau dessin conservé à Stockholm et qui est un relevé fait par l'architecte suédois Tessin, non pas des dessins de Berlin qui n'existaient pas sous cette forme, mais de la maquette qui était alors conservée dans le Louvre, maquette tout à fait superbe, décrite à plusieurs reprises par les contemporains et qui a disparu vraisemblablement à la Révolution lors de l'abolition de l'Académie royale d'architecture qui l'a conservée avec d'autres petits modèles lits représentant cette phase complexe de l'histoire du Louvre. Cette monumentalisation, vous la voyez devant vous, elle passe par la création d'un extraordinaire soubassement dégagé par des fossés monumentaux qui ne sont plus seulement lisibles comme des systèmes de défense, mais bien une mise en scène de l'architecture, traitée ici, vous le voyez, au naturel, avec ce système de rochers extraordinaires que les Français trouvent tout à fait presque inquiétant, mais que le jeune roi Louis XIV trouve tout à fait superbe, ce que l'on appelle en architecture un écueil. Et cet écueil, il n'y a pas de jeu de mots dans cette citation que je fais, cet écueil permet de placer au-dessus la grande élévation qui, progressivement, vous le voyez, voit la pierre se raffiner pour passer des gros blocs, puis des bossages à la grande façade à pierre assemblée à joints vifs qui donne cet aspect très lisse et très pur de l'architecture. On est frappé également par l'usage d'un ordre monumental, que l'on appelle un ordre colossal, ces grandes colonnes engagées corinthiennes qui montent sur deux étages au-dessus du soubassement puissant que forment l'écueil et le rez-de-chaussée. Et enfin, le dessin est assez réduit en hauteur, mais pourtant il est juste l'absence de toiture dissimulée en réalité derrière une balustrade dans un esprit que l'on peut évidemment considérer comme assez italien, puisque Paris n'est pas spécialement une ville où on puisse utiliser facilement des terrasses au vu du climat. Cette monumentalisation que Bernin produit dans la façade royale de l'entrée du Louvre, devenue façade marqueur de l'architecture du palais réformé, implique une place monumentale au-devant pour pouvoir produire ses effets. Sans place, pas d'effet, et donc pas de possibilité de lire cette démonstration de puissance, de grandeur. Elle pose aussi une autre question, la monumentalité de cette façade, c'est bien sûr son raccordement à ce qui se trouve derrière. Et vous vous souvenez, si vous avez lu le merveilleux texte de celui qui accompagne Bernin dans tout Paris et le traduit, puisqu'il ne parle pas français, ses échanges toujours un peu vifs et aigres avec les différents personnages qu'il peut rencontrer, eh bien vous vous souvenez que Bernin est frappé de la médiocrité du Louvre qu'il doit transformer et que sa première déclaration est que si on le laisse tout raser, il pourra refaire quelque chose de bien. Évidemment, les Français sont un peu maris de cette situation, puisqu'ils espéraient que Bernin soit ébloui par la façade de Lescaut et ses reproductions successives. Le voilà, au contraire, qui parle tout franchement qu'il n'y a là rien de très intéressant, rien en tout cas qui puisse freiner son imagination, qu'on ne me parle de rien de petit, c'est sa première phrase. Et Louis XIV en avait été très charmé, un tout petit peu moins, bien sûr, Colbert, qui lui faisait, comme vous le savez, les comptes. Donc, une place monumentale absolument nécessaire à la possibilité de voir et de recevoir la façade et une articulation complexe avec des bâtiments qui se trouvent en arrière et dont le rôle se trouve déclassé par la production berninienne. Mais vous le savez, Bernin repart en octobre 1665, couvert d'argent et de cadeaux par le roi, pas tellement l'intention de revenir dans ce pays qu'il a paru peuplé de gens déraisonnables, et l'abandon de son projet par Colbert un an plus tard scelle la fin de ce second épisode, un échec dans l'échec, si je peux dire, qui a suscité quelques regrets nostalgiques un tout petit peu étonnants, et je ne résiste pas au plaisir de rappeler que lors des travaux du Grand Louvre, le président François Mitterrand et son architecte Minpei ont cru bon de faire dresser devant la pyramide, symbole de modernité absolue, une copie en plomb de la statue de Louis XIV à cheval par Bernin, conservée à Versailles, en expiation du crime de lèse-génie qu'avait commis Louis XIV en ne prenant pas la commande de ce programme tout à fait formidable. Bien sûr, il est clair que, quand on ne connaît pas bien l'histoire de l'architecture, le projet de Bernin peut facilement paraître plus intéressant que l'histoire du palais et les travaux de Louis Levaux, mais je crois que c'est une vision un tout petit peu scolaire de l'histoire de l'architecture. La troisième et dernière raison de l'échec du Louvre tient dans la formule finale retenue par Colbert. Un édifice qui doit être conçu collectivement, le texte du printemps 1667 est très clair sur ce point, qui enjoint aux architectes, je cite, « de travailler unanimement et conjointement à la nouvelle façade, annulant ainsi la paternité artistique de la future réalisation au profit de celle du roi bâtisseur et dont les historiens de l'art ont depuis débattu sans fin et sans résultat. Il n'y a pas d'architecte de la colonnade, il n'y a qu'un roi qui a donné l'ordre de bâtir cette façade qui le représente. C'est, si j'utilise le vocabulaire contemporain un peu péjoratif, véritablement une architecture de commission. Chacun y a été de son idée, puis ensuite, devant la postérité, s'est attribué le résultat final, l'avantage revenant bien sûr au clan des Perrault, puisque l'architecte, en fait mauvais médecin, devint bon architecte, dira Boileau, Claude Perrault avait la chance d'avoir comme petit frère le commis des bâtiments de Colbert, Charles, écrivain bien connu. La contradiction entre le programme d'Henri IV, du quadruplement de la cour carrée, et l'autonomisation de la façade orientale aboutit ainsi à une solution qui ne pouvait pas être autre qu'hybride et dont le dessin final, qui a dû être mis au point à deux reprises, est finalement achevé et mis au point en 1668. C'est la fameuse colonnade bien connue. Édifice horizontal, ici représenté en plan et en élévation sur une gravure de Jean Marot, le célèbre architecte et graveur protestant qui a laissé une grande part des témoignages sur le cuivre de l'architecture française, souvent disparus depuis ou modifiés. Un édifice très horizontal, donc, vous le savez, mais je le précise, les édicules en toiture très paradoxaux et qui montrent tout le débat sur cette question de l'horizontalité n'ont jamais été réalisés, même si on les voit gravés ici par anticipation erronée. Cet édifice horizontal est marqué d'un ordre colossal de colonnes corinthiennes où la toiture française habituelle a disparu, comme dans le projet de Bernin. Et voilà que les Français, qui ne voulaient plus de cet architecte italien, qui ne voulaient plus de son esthétique, ont maintenant, finalement, peut-être même à la manière de M. Jourdain sans s'en apercevoir, retrouvé là des traits que Bernin avait apportés dans son extraordinaire projet pour le Louvre. Ce paradoxe pourrait d'ailleurs être mis en parallèle avec celui que constitue l'éblouissement des Français pour le premier projet de Bernin, avec sa grande façade concave, alors qu'il est si proche pourtant de la façade du Collège des Quatre Nations dont je parlais tout à l'heure. Mais cette colonnade que vous voyez là, elle a surtout deux caractères qui intriguent l'historien du Louvre. Elle est plus large que la cour carrée qui se trouve derrière, beaucoup plus large. Et surtout, elle est beaucoup plus haute que le Louvre. C'est un masque qui se superpose au palais existant sans s'articuler à lui, à tel point que ce que montre la gravure, ces niches ornées de statues, étaient des fenêtres qu'on a ouvertes et puis refermées quand on s'est aperçu qu'elles ne correspondaient pas à la distribution des pièces à l'intérieur. Ces fenêtres que vous voyez aujourd'hui dans la colonnade et qui ont été rouvertes par les architectes de Napoléon et qui n'éclairent toujours pas les pièces qui se trouvent derrière. Quel paradoxe! Pourtant, l'ambition portée par cette façade était très grande. Frontispice du règne, porte du palais du grand roi, elle voulait rivaliser par son nom même avec la Rome d'Alexandre VII, où Bernin achève justement la colonnade, place Saint-Pierre. Mais c'est encore un exploit technique, domaine où la France entend également démontrer sa supériorité face à l'Europe, que cette colonnade. Et vous connaissez bien sûr cette gravure, de nombreuses fois reproduite, du chantier de la colonnade. une gravure de Sébastien Leclerc datée de 1677. L'appareil, donc la qualité de la construction des murs, détériorés lors des ravalements express malencontreusement commis en 1993 pour des raisons politiques, le choix du ferraillage de la pierre pour assembler les plafonds et les voûtes plates des loggias de la galerie, enfin, la démonstration de force que donne à voir cette gravure, on hisse sous vos yeux émerveillés deux gigantesques pierres monolithes destinées à couvrir les deux rampants du fronton central. Une démonstration de force absolument inutile, puisque vous ne pouvez pas le voir depuis l'espace public, est totalement inutile techniquement. Mais c'est bien l'idée de se confronter à la grandeur antique qui suscite la fantastique gravure que vous voyez et le non moins fantastique échafaudage réalisé par les charpentiers des bâtiments du roi pour hisser ces pierres à l'image des Égyptiens ou des Romains. Fascinante image de glorification qui présente en réalité non pas la façade, mais le chantier de la façade comme une démonstration de force et pourtant une façade que personne ne pouvait voir puisque toute la partie qui en est dégagée sur la gauche ne possédait qu'un recul de 2 mètres au-delà duquel commençaient des maisons du Moyen-Âge qu'on n'abattra que bien plus tard. Personne n'a vu la colonnade du Louvre de Louis XIV sous Louis XIV. Faute d'avoir été seulement achevée, alors de son abandon il n'y a ni plancher ni toiture, mais surtout dégagée des maisons qui l'enserraient. Ainsi, le grand chef-d'œuvre du règne demeure enfermé dans la gangue du vieux quartier du Louvre. Son dégagement sera opéré seulement sous Louis XV, un siècle plus tard, tandis que les fossés mettant en valeur son splendide soubassement ne seront creusés qu'en 1964, lors d'une opération où s'apparit, curieusement, la geste gaulienne et le royaume farfelu d'André Malraux. Au Louvre, il me semble donc que le caprice n'est pour rien dans l'échec du chantier de la colonnade. La topographie des lieux, le poids de l'héritage architectural, comme les choix du passé, ont enfermé Louis XIV dans une logique qui avait peu de chances d'aboutir. Le chantier de Versailles, qui devait marquer le siècle et devenir l'incarnation iconique du pouvoir monarchique, encore aujourd'hui, dans le monde entier, offre un cas de figure très différent, me semble-t-il, du Louvre. Si le petit édifice polychrome de Louis XIII préexiste, le roi trouve à Versailles tout ce qui lui manque à Paris, de l'espace, la liberté de voir loin, la possibilité d'une île royale à l'ouest de Paris. Faut-il croire à la légende d'un Louis XIV fuyant la capitale frondeuse de son enfance traumatisée ? Pourquoi pas ? Mais l'explication a peut-être contre elle une banalité un peu gênante. Je crois plus volontiers à la thèse de la page blanche. À Versailles, Louis XIV est chez lui, comme Louis XIII l'avait été avant lui. Mais là encore, le processus de fabrication de Versailles va provoquer une catastrophe architecturale que les touristes qui se pressent aujourd'hui par millions négligent peut-être trop, je le crains. Dans la pièce en 3 actes que constitue le chantier, si bien découpé que les historiens n'ont pas eu de peine à s'y conformer, Versailles est d'abord un château des fêtes et des plaisirs, puis une résidence royale, enfin le palais du gouvernement, la grande merveille de la France royale chantée par Ernest Renan. Cet enchaînement est cependant moins logique qu'il n'y paraît et je vous propose de le reconsidérer à nouveau sous l'angle de la grandeur, du caprice et de l'échec. Entre 1661 et 1666, le petit château d'origine connaît de grands travaux d'amélioration qui touchent dans un même mouvement les dehors, avec une nouvelle entrée monumentale et la basse-cour, et les dedans, alors dotés de riches intérieurs d'or et de marbre. Et là, il faut se retourner vers Mademoiselle de Scudéry pour retrouver des descriptions d'un ensemble d'appartements qui n'existent plus aujourd'hui du tout. Tandis que Louis Levaux, toujours lui, y travaille, le jardin et ses dégagements sont confiés à André Lenôtre, qui déploie le petit parc de Louis XIII, en pousse les perspectives jusqu'à l'infini, là où Proust apercevait les bateaux de Nimègue, créant la célèbre patte d'oie que vous avez au premier plan, et le grand canal à l'ouest qui met le ciel au milieu du jardin. C'est ce que donne à voir ce célèbre tableau de Pierre Patel, que, dans une analyse très brillante, Pierre de Nolhac avait jadis daté de 1668, année au cours de laquelle cette première campagne semble toucher à sa fin. Du moins, c'est ce que Colbert espère, lui qui tente de conserver l'intérêt du roi pour Paris. Le chantier de la colonnade ne doit-il pas ramener Louis XIV à ses devoirs parisiens ? C'est ce que croit le ministre, bien mal renseigné sur les désirs de son maître, en l'occurrence. Mais attardons-nous un instant sur ce tableau, qui nous montre, dans une vue en perspective à vol d'oiseau assez fascinante, une des plus belles peintures de la topographie architecturale française, la place d'Armes et sa patte d'oie, qui encore aujourd'hui suffit très largement à la circulation versaillaise, la grande basse-cour, qui indique qu'on vient maintenant souvent dans ce château qui a besoin de place pour les communs, pour les services, le château d'origine du père du roi, qui n'a pas changé, et le parc, petit et grand parc qui se déplie sous l'autorité de Lenôtre. Or, en examinant un tout petit peu cette peinture, malgré ses artifices et son habileté, si vous connaissez la topographie des Yvelines, vous serez frappé par ces montagnes bien symétriques, nous sommes en France, qui sont du plateau de Satory à la colline de Marly, ici réorganisée, ou la manière dont on a, très élégamment, mais il a fallu des fouilles archéologiques pour s'en apercevoir, repoussé le jeu de paume du roi pour qu'il soit bien dans l'axe symétrique, à gauche. Mais ce que ne peut pas dissimuler l'habileté du peintre, c'est que le double mouvement de conservation du château, d'un côté, et de l'agrandissement du parc et des accès de l'autre, a complètement déréglé les échelles du domaine. La grandeur qui éclate partout ici s'écrase sur le petit édifice brique et pierre de Louis XIII, qui n'avait pas la grandeur d'un hôtel particulier du Marais. Le hiatus est ici particulièrement visible dans le jardin, tandis qu'on a déjà dédoublé au nord le parterre du roi. Le parterre de la reine au midi est encore dans son échelle primitive et on voit bien ici qu'il y a une rupture de l'échelle qui contient toute l'histoire de la transformation du centre du château. Je ne suis pas le premier à faire cette remarque, comme vous l'imaginez, tous les contemporains l'ont vu, et le roi en premier. Gêné par ce défaut, Louis XIV va donner l'ordre en 1668 d'ouvrir un second chantier versaillais. Grand désespoir de Colbert, alors que tout semblait enfin terminé pour ce caprice versaillais. Ici se place un épisode tragicomique dont les récits des témoins sont d'ailleurs assez contradictoires. On entend d'abord, contre toute logique, conserver le petit château du père du roi, parce qu'on vient d'y engloutir des sommes très importantes, et le chemiser par des agrandissements à droite et à gauche, un enveloppement qui va bientôt désigner le bâtiment neuf, l'enveloppe de Versailles. Vous reconnaissez le petit château de Louis XIII avec son plan en U et autour de deux nouvelles cours, des édifices supplémentaires qui viennent se greffer comme un chemisage médiéval dans une opération dont l'échelle est unique dans l'histoire de l'architecture française. Il faudra attendre le chemisage et l'agrandissement de l'hôtel de ville sous Louis-Philippe pour revoir la même idée de conservation d'un cœur enrichi de deux nouvelles épaisseurs. Ce faisant, c'est Louis Le Vaux qui naturellement en est l'architecte, les plans des agrandissements sont libres et procurent des distributions tout à fait modernes. Mais en revanche, l'élévation de ces nouvelles parties, eh bien, elle est obligée de se caler sur l'existant parce que l'on doit passer du vieux château au château neuf par les mêmes espaces, les mêmes planchers. Et voilà que les hauteurs de plancher comme la ligne de toiture devient le point de réglage de l'architecture nouvelle. C'est cet étonnant rapetassage que montre un document de travail lavé avec rapidité et conservé aujourd'hui dans les collections suédoises. Je vous en montre un détail que j'ai zoomé, d'où peut-être, vous voudrez bien m'en excuser, le caractère un peu flou de mon document. On est frappé par le contraste des deux visages de ce château vieux et de ce château neuf, véritable Janus architectural, des façades en briques et pierre d'un côté, tout en pierre de l'autre, des façades dans le mode rustique à gauche, avec un grand ordre de pilastres ioniques colossaux de l'autre côté, des toitures d'ardoise, avec leurs lucarnes si pittoresques et si usuelles au goût français, et de l'autre côté, un terrasson presque plat caché par une balustrade d'où s'échappent de grands pots à feu sculptés, un motif affectionné par Levaux que vous retrouvez sur tous ces édifices, de Vincennes jusqu'au Collège des Quatre Nations dont je parlais tout à l'heure. Autrement dit, on mesure dans ce dessin le caractère d'aplatissement des parties neuves assujetties au château de Louis XIII. Le chantier dure quelques mois quand on change soudainement d'avis. Au printemps 1669, Colbert lance une consultation pour la destruction complète du petit château, afin de réaliser un édifice vraiment digne du grand roi. Organisée dans des délais trop courts, cette consultation n'aboutit qu'à un projet spectaculaire, en tout cas le seul qui nous soit parvenu, et qui est de Louis Levaux. Je vous ai remis ici le plan de l'enveloppe qui avait été mise en chantier durant l'année 68 et le début du printemps 69, et à la même échelle, le projet conservé lui aussi, une fois de plus, et heureusement pour la pérennité de ces documents, dans les collections suédoises. Que voit-on ? Le futur Versailles est doté enfin d'un plan régulier, en U, avec une grande cour centrale, au lieu de cette multiplication de petites cours. Deux ailes en symétrie pour le roi et la reine, dotées de grands dégagements, vestibules, escaliers, positionnés avec logique, avant les grands appartements qui conduisent à deux salons octogonaux, nous n'avons que le plan du rez-de-chaussée, mais vous le savez, nous pouvons en déduire le plan de l'étage, qui réunissait une galerie monumentale tendue entre les deux salons face au parc. Galerie dont le roi a expressément exigé la présence dans son château. Étonnant édifice dont on aimerait connaître les élévations qui n'ont pas été conservées. Mais sitôt l'été 69 passé, on se ravise pour recommencer le chantier de l'enveloppe en conservant le petit château de Louis XIII. Et ce chantier est conduit à son terme en 1671 pour le gros œuvre par François d'Orbais, le fidèle collaborateur de Levaux décédé entre-temps. Pour gagner de la place, le château neuf reçoit finalement un étage supplémentaire, qu'on appelle un étage attique, qui le rattache à la tradition française qui va du Louvre de Lescaut au Luxembourg de Salomon de Brosse. Le résultat est frappant, comme vous le voyez sur cette gravure célèbre d'Israël Sylvestre. Le château est désormais à l'échelle du jardin de Lenôtre et de la colline sur laquelle il s'est dilaté. Et cependant, les proportions de la façade, que vous n'apercevez ici que de loin, ces proportions sont désaccordées. Tandis que le choix d'implanter une terrasse centrale au bel étage sur le jardin, une disposition très scénographique et qui a troublé les historiens de l'art, au point qu'on a cherché un point de comparaison avec la Villa Borghese à Rome, un des rapprochements les plus baroques, si j'ose dire, pour employer un mot dangereux en histoire de l'architecture, qu'on puisse faire avec Versailles, eh bien, cette terrasse opère une coupure dans la distribution générale du château. Pour aller d'un bloc à l'autre, il faut sortir. Et ce n'est pas très commode dans un pays où les climats ne sont pas aussi favorables qu'au sud de l'Europe. La décision, enfin, de ne pas achever l'édifice par une toiture laisse entrevoir, là encore, la leçon de Bernin et de ses projets du Louvre, suscitant plus tard la réflexion d'un Saint-Simon très attaché à l'esthétique française et se plaignant que le toit de ce palais semble avoir brûlé. Une réflexion très intéressante qui nous permet d'aller au cœur de la réception des contemporains de cette architecture si novatrice, sans toiture apparente, et qui rompait avec la tradition médiévale. L'enveloppe de Versailles, qui offre enfin aux souverains de grands appartements et de grandes façades de pierre sur le parc, avec des sculptures en bas-relief et en mascaron, a encore un autre défaut extrêmement gênant. Malgré la configuration des lieux, il existe une covisibilité entre les logis anciens et nouveaux. Sur les côtés de la cour royale, d'une part, donc du côté de l'entrée, bien sûr, et surtout au niveau des toitures dont les lignes ne correspondent pas. Et il faut dire que Israël Sylvestre, payé par les bâtiments du roi pour lever toutes ces vues, n'a pas cherché à tricher tellement, puisqu'on voit bien que les ruptures d'échelle et d'organisation sont très importantes. Il y a là des défauts rédhibitoires à l'enveloppe de ce château de Versailles. La troisième campagne du Versailles de Louis XIV est celle qui est lancée en 1678 sous la conduite d'un nouvel architecte, Jules Hardouin-Mansart. C'est lui qui va lancer deux immenses ailes au midi et au nord. Vous reconnaissez ici l'enveloppe avec le petit château Louis XIII toujours inscrit en son cœur, qui étire la façade du château sur plus de 650 mètres en faisant la plus longue façade d'Europe d'un palais royal. Mais si ce succès, qui permet de placer le roi de France au-dessus de l'empereur et des autres monarques ses rivaux, peut-être même du pape, si ce succès est certain, le nouveau plan élaboré dans ce document, qui est presque un document prospectif et qui est daté aujourd'hui des années 1679-80, aboutit à ce que redoutait Colbert, qu'il avait dit au roi, si l'on étend le château par des ailes, eh bien, en sortant de l'assiette de la butte médiévale, je cite le ministre, « Le château de votre majesté semblera avoir une grosse tête avec deux petits bras, c'est-à-dire, écrit-il, un monstre en bâtiment. » Et il prononce ce terme très spectaculaire, un bâtiment monstrueux. Mieux que le Louvre, Versailles articule donc parfaitement notre triptyque. Il y a de la grandeur dans l'aménagement du site, du caprice dans l'aller-retour de 1668-1669, et finalement un échec qui rend l'édifice attachant et complexe également à lire. Pour les contemporains, l'affaire est entendue, le chef-d'œuvre est manqué, et les architectes du roi n'auront de cesse, depuis Jules Hardouin-Mansart lui-même, jusqu'à Ange-Jacques Gabriel, en passant par son père, de proposer de démolir le vieux château incrusté au centre de l'ancien pour en reconfigurer l'entrée, tant critiquée par les théoriciens du XVIIIe siècle comme manquant de grandeur. Et je vous renvoie là, bien sûr, aux analyses toujours très aiguës et très acides de Jacques-François Blondel. Ce grand dessin de Versailles, qui a fait dire à Saint-Simon que le château était inachevé après 30 ans de travaux ininterrompus, sera finalement entrepris en 1771 par un Louis XV fatigué et stoppé net 4 ans plus tard par un Louis XVI ruiné. C'est l'aile Gabriel qui a provoqué alors le déséquilibre complet des élévations du château sur la ville, que les derniers Bourbons répareront à l'économie au début du XIXe siècle, avec le pavillon du four qui est aujourd'hui en travaux à Versailles. On sera moins sévère que Voltaire, pour ce troisième exemple de la place Vendôme, avec le Paris de Louis XIV, car même absent physiquement de la capitale à partir de 1671, le roi n'a pas ménagé les travaux dans sa capitale. Qu'il s'agisse d'édilité, la levée du plan de Paris de Bullet et Blondel, publié en 1676, le percement ou l'élargissement de nombreuses rues et de quais, l'éclairage nocturne qu'on doit au roi Soleil, c'est le moins qu'il pouvait faire, des bâtiments publics, la Salpêtrière, les Invalides, l'Observatoire, et enfin la politique de gloire, les Arcs de Triomphe, dont nous restent les portes de Saint-Denis et Saint-Martin, les places des Victoires et de Vendôme, le Paris de Louis XIV est une réalité monumentale que parachèvent les réformes administratives du grand roi, la lieutenance générale de police en 1666, illustrée par l'Araignée, et la réforme du découpage des quartiers de police en 1702. Je voudrais revenir ici sur la question des places, et plus spécifiquement sur la place Vendôme, car elle constitue à mes yeux l'échec le plus spectaculaire et le plus instructif de la politique architecturale du règne. Comme la place des Victoires, son exacte contemporaine, elle appartient à la typologie bien connue des places royales. Il s'agit d'un espace urbain organisé pour mettre en scène la statue du prince dans l'espace de la ville. Le projet en a été élaboré en 1685 sous la direction de Louvois, devenu surintendant des bâtiments à la mort de Colbert. La difficulté d'aménager un tel espace monarchique dans une ville, avant même la question des coûts induits par la construction d'un tel objet architectural, réside dans la question de l'emplacement. Dans des villes denses et anciennement bâties comme Paris, la ville la plus dense du monde à l'époque en population, et elle n'est pas loin de le redevenir, vous le savez, depuis quelques années, la place manque cruellement. Il faut donc soit sortir de la ville, comme on le fait au même moment à Montpellier, à la place du Pérou, soit se mettre à la marge, comme les Lyonnais feront avec la place Bellecour. Dans le cas parisien, la couronne a choisi des emplacements déjà bâtis sur la rive droite, qu'il a donc fallu acquérir, détruire et niveler. C'est toute l'histoire des deux places, des Victoires et Vendôme, et cette dernière tire son nom, vous le savez, de l'hôtel aristocratique qui s'élevait sur une partie de son assiette foncière. La nouvelle place a été dessinée par Jules Hardouin-Mansart, que nous retrouvons, devenu en 1681 premier architecte du roi. Très original, et je vous en montre à la fois le plan et une vue gravée d'Avelines, elle combine une place fermée sur trois côtés, le quatrième étant complètement ouvert sur la rue Saint-Honoré, un carré long sur lequel se dresse, autre partie de la combinaison, une statue royale, un grandiose monument équestre de bronze commandé à François Girardon, enfin un arc de triomphe, moins visible sur la gravure que sur le plan, et pour finir, un grand couvent au nord, le couvent des Capucines emporté par l'actuelle rue de la Paix. Les façades, et on le voit très bien sur la vue d'Avelines, malgré son caractère pittoresque, forment un véritable rideau qui a été tiré sur ce théâtre monarchique, et elles sont dressées dans le vide dès le début du chantier pour marquer l'espace ainsi découpé. Avec leurs portiques sous arcades et leur ordre colossal de pilastres ioniques, elles répondent aux canons mis au point par Mansart à la place des Victoires, une formule promise à un grand avenir dans les provinces qui, au siècle suivant, se doteront de places royales. Il suffit ici de penser à Rennes ou bien sûr à Bordeaux. L'absence de toiture que vous apercevez, naturellement provisoire, puisqu'elle est due au système même de construction des façades dans le vide, renvoie pourtant une fois encore au modèle de Berlin. Le discours monarchique a été poussé ici au plus loin dans le choix de placer la statue non pas au centre du dispositif, comme on pourrait s'y attendre, mais en la décalant vers le nord. Elle est à un tiers, deux tiers en réalité, au point d'articulation, ce qui dynamise très fortement l'espace en donnant à croire que cette statue équestre franchit l'arc de triomphe qui se trouve derrière. Ainsi, le roi est coulé dans le bronze comme un éternel triomphateur. Tandis que Louvois a choisi de ne disposer derrière les façades que des palais pour des administrations royales. Il n'y a de noblesse que d'État, déjà à ce moment-là dans l'esprit des élites, et au premier rang desquelles institutions se place, aurait dû se placer, la bibliothèque du roi, qui est alors logée de manière artisanale et pittoresque dans deux petites maisons de la rue Vivienne. Il y a donc là comme un forum royal, avec cette promenade autour de ce grand carré, avec ses façades marquées par un grand ordre, avec ses administrations, avec cet arc de triomphe, avec cette statue du prince. S'il avait été achevé, il est clair que ce programme de la première place Vendôme aurait été une des créations les plus étonnantes du grand siècle, et peut-être qu'il faut aller à Lisbonne, place du commerce, pour en retrouver l'esprit et les différentes articulations, cette merveilleuse place du commerce réalisée dans la Lisbonne de Pombal après le tsunami de 1755. En 1698, cependant, alors que la statue est érigée sous les acclamations, voilà, excusez-moi, les élévations dessinées par Jules Hardouin-Mansart, vous retrouvez le grand soubassement à bossage et arcade, l'ordre colossal dont l'entablement forme corniche, et ici, comme place des Victoires, l'usage d'un ordre ionique qui renvoie aux façades du Louvre et de Versailles, un ordre royal par essence, affectionné par le roi comme par son architecte Mansart. Mais donc, je le disais, au moment où la statue est érigée sous les acclamations, en 1698, la plus grande statue équestre du monde, un chef-d'œuvre aussi dans l'histoire de la fonte, et je vous renvoie là au bel ouvrage rédigé par un des collaborateurs de Girardon, le jeune Boffrand, qui deviendra un des plus grands architectes du XVIIIe siècle. Voilà l'inauguration avec le gouverneur de Paris qui représente le roi qui n'est pas présent. Eh bien, les façades se dressent toujours dans le vide, L'Arc de Triomphe n'est pas achevé, la bibliothèque du roi sort à peine de terre et son chantier semble définitivement abandonné. La disparition de Louvois en 1691, plus encore la nouvelle situation politique du royaume, ont rendu ce grand projet sans objet. Le changement de ton du règne joue également, que traduit le traitement du piédestal très sobre et seulement décoré d'inscriptions latines et non plus de figures allégoriques agressives, comme on l'avait fait place des Victoires 15 ans plus tôt, provoquant de vives tensions avec les nations européennes et avec les protestants. Aussi, en 1699, la conclusion de cette histoire est-elle assez brutale ? Il faut détruire tout ce qui a été fait et trouver une porte de sortie honorable en lotissant les terrains de ce rêve inabouti. La couronne se défausse alors sur la ville de Paris, qui n'a pas plus de fonds, et elle-même se retourne vers un consortium de promoteurs, 6 promoteurs qui vont alors monter une opération spéculative. On connaît bien cette histoire, mais il est utile de souligner que dans le rapport de force qui s'établit alors, la couronne dispose d'un atout majeur, la statue de bronze du prince, intouchable. C'est le pivot de la recomposition urbaine qui aboutit à la seconde place Vendôme, celle que nous connaissons. Un plan unique en son genre, que je vous montre ici à gauche, ce n'est pas un plan contemporain d'un historien, c'est un plan du début du XVIIIe siècle, montre le résultat de ces transactions. En faisant de la statue qui était, vous le voyez, décalée dans la place de gauche, qui est la première place, le centre de la nouvelle place, les promoteurs ont gagné du terrain un peu partout. C'est leur métier. Tandis qu'en rabattant les angles du carré, ils ont trouvé encore 4 places supplémentaires à bâtir. Ainsi est né le fameux octogone d'un marchandage foncier, tandis que Mansart doit s'en excuser auprès des théoriciens. On ne rabat pas les angles du carré. Ayant sauvé la face, la couronne va sauver aussi les façades. Le même Mansart est toujours à la manœuvre et va replanter le décor, même s'il est obligé de démolir les façades que je vous ai montrées. Il va reconstruire à nouveau un rideau de pierre dans le vide afin d'en mieux contrôler l'exécution, validée en 1702-1703. Dans un mouvement de compensation, sans doute, ces façades sont alors investies d'un très fort message monarchique. Voilà vraisemblablement le dessin de présentation. C'est un document de la Bibliothèque nationale qui a presque 2 mètres de large et qui a été sans doute montré au roi pour voir le nouvel effet de cet octogone qui enserre la statue. Dans ce mouvement donc d'enrichissement, on découvre que l'ordre ionique, a été remplacé par un ordre corinthien, plus riche, mais surtout que les avant-corps sont maintenant dotés de frontons. Il y en a 6, des frontons aux armes de France, aux grandes armes de France. Tandis que dans les garde-corps en fer forgé, un des espaces qui touche aux appartements privés, où les propriétaires qui ont acheté très cher les terrains pouvaient espérer exister dans l'espace, le modèle que l'on doit suivre est la célèbre grille qui, au XIXe siècle, a été tant copiée dans le Paris haussmannien, au soleil apollinien et au double L du chiffre du roi. Aucune individualisation n'est donc possible pour les particuliers qui ont acheté les futurs hôtels derrière l'écrin des façades. Celui-ci fait caisse de résonance autour du cavalier de bronze pour le théâtre monarchique. Place Vendôme, c'est donc de l'échec qu'est née la grandeur, le résultat étant si spectaculaire qu'on peine à croire aujourd'hui qu'il a pu procéder d'un tel compromis. Je conclus en examinant ces 3 chantiers majeurs du règne, investis chacun à leur manière de l'image royale, j'ai tenté de repousser les considérations stylistiques et d'éloigner les commentaires laudatifs, parfois à la limite de la niaiserie, qui accompagnent trop souvent l'étude de l'architecture royale sous Louis XIV. Vous savez, cet art fait de mesures et d'équilibre, etc. Il me semble que les considérations toutes matérielles de l'art de bâtir, qu'il s'agisse des problèmes de terrain, de budget, des contraintes diverses liées à l'existant, ne mérite pas moins d'attention que des lectures trop chargées de sens politique, voire théorique. Ce faisant, Je n'ai pas parlé d'un édifice que vous attendez peut-être et qui a suscité dès sa création les louanges les plus grandes et en même temps les plus justifiées, si j'en crois Montesquieu, l'église royale des Invalides. Il n'est pas trop fort d'y voir un témoin de la grandeur monarchique, c'est entendu, doté d'une double échelle, urbaine d'abord, puisque c'est alors l'édifice parisien le plus élevé, mais encore européenne, comme une réponse toute française à Saint-Pierre de Rome et Saint-Paul de Londres. Le dôme des Invalides appartient à la séquence des grandes églises identitaires qui sortent de terre autour de 1700 sur tout le continent européen. Ce monument est né d'un caprice, sur le sens duquel on discute encore. Alors que s'achevait le chantier de l'hôtel des Invalides, construit avec succès par Libéral Bruant, le roi a en effet écarté ce dernier maître d'œuvre et confié au jeune Julardoy Mansart, alors moins connu, le soin de bâtir cette église monumentale sans aucune fonction établie. Aussi long que coûteux, son chantier aboutit en 1706 à doter Paris d'un édifice aussi spectaculaire qu'inutile, ce que Vauban qualifiera drôlement de cinquième roue du chariot. Mais il serait difficile, sauf à manier le paradoxe, de voir dans cette église royale sans fonction un échec. On a donc voulu en faire le projet de tombeau pour les Bourbons. Une lecture séduisante, eu égard à la disposition architecturale de l'édifice, avec ses somptueuses chapelles souterraines méconnues du public, mais hypothèse qui comporte une part téléologique embarrassante pour l'historien en l'absence d'archives. J'y vois plutôt ce que ni la colonnade du Louvre, ni l'enveloppe de Versailles, ni la place Vendôme ne réussissent vraiment à être. Le portrait architectural du roi, une synthèse parfaite de l'antique, avec cet extraordinaire frontispice, de la Renaissance, avec la spéculation sur le plan centré et le dôme sur tambour, et l'élan vertical hérité du gothique, avec la flèche fleur-de-lysée et dorée, empruntée à la Sainte-Chapelle du Palais de Paris, une icône de l'art royal que tous les architectes français et que le grand siècle ont vénéré. Je vous remercie.